Chapitre 39. Gravé en elle. Le temps d'un battement de cœur, Alésarve était là, ayant franchi une distance qui aurait demandé plus de 4 mois pour la parcourir à pied. Encore un récit populaire, consigné cette fois dans Parmi les sombres iris de Kalinam. Page 102. Ces récits comportent de nombreuses références au voyage instantané et aux portes du pacte. La main de Shallan volait au-dessus de la planche à dessin, comme mue par sa propre volonté, tandis que le charbon grattait, esquissait, étalait. D'abord des lignes épaisses, pareilles à des traces de sang laissées par un pouce ouvert sur du granit coupant. Puis des lignes minuscules, pareilles à des marques d'épingle. Elle était assise dans sa chambre de pierre, grande comme un placard au sein du conclave. Pas de fenêtre, ni de décoration sur les murs de granit. Rien que le lit, sa malle, le meuble de chevet et le petit bureau qui servait également de table à dessin. Un unique brome de rubis projetait une lumière sanglante sur sa planche. En règle générale, pour produire un dessin vivant, elle devait mémoriser consciemment une scène. Un clin d'œil pour figer le monde et l'imprimer dans son esprit. Elle ne l'avait pas fait lorsque Jasnah anéantissait les voleurs. Elle était alors trop paralysée par l'horreur ou une fascination morbide. Malgré tout, elle visualisait chacune de ces scènes aussi clairement que si elle les avait délibérément mémorisées. Et ses souvenirs ne s'évanouissaient pas quand elle les dessinait. Elle ne pouvait plus en débarrasser son esprit. Ses morts étaient gravés en elle. Elle s'écarta de sa planche à dessin, la main tremblante, et l'image qu'elle vit devant elle était une représentation exacte au charbon de cette scène nocturne suffocante, dans l'espace exigu entre les murs de la ruelle, alors qu'une silhouette de flamme torturée s'élevait vers le ciel. À cet instant, son visage conservait encore sa forme, grands yeux d'ombre écarquillés, lèvres de flamme béantes. La main de Jasnah était tendue vers la silhouette, comme pour prier. Shallan porta à sa poitrine ses doigts tachés de charbon et regarda fixement sa création. C'était un dessin parmi les dizaines qu'elle avait réalisé ces derniers jours. L'homme se changeait en flamme, l'autre était figé sous forme de cristal, tous deux transmués en fumée. Elle ne pouvait pleinement dessiner que l'un d'entre eux. Elle était alors tournée vers l'est de la ruelle. Ses dessins de la mort du quatrième homme représentaient la fumée en train de s'élever, ses vêtements déjà à terre. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir représenter cette mort, et stupide d'éprouver cette culpabilité. La logique ne condamnait pas Jasnah. Oui, la princesse s'était placée de son plein gré dans une situation dangereuse, mais ça ne retirait pas toute responsabilité à ceux qui avaient choisi de lui faire du mal. Les actes de ces hommes étaient répréhensibles. Shallan avait passé ses journées à parcourir des livres de philosophie, et la plupart des cadres éthiques disculpaient la princesse. Mais Shallan avait été présente. Elle avait regardé mourir ces hommes. Elle avait lu la terreur dans leurs yeux et en gardé atrocement mauvaise conscience. N'y avait-il pas un autre moyen? Tuer ou se faire tuer? C'était la philosophie des extrêmes. Elle disculpait Jasnah. Les actes ne sont pas mauvais en soi. Seule l'intention est mauvaise, et celle de Jasnah avait été d'empêcher ces hommes de faire du mal à d'autres. C'était la philosophie de l'intention. Elle louait Jasnah. La moralité est distincte des idéaux humains. Elle existe tout entière quelque part, afin de pouvoir être approchée, mais jamais pleinement comprise par les mortels. C'était la philosophie des idéaux. Elle affirmait qu'éliminer le mal était parfaitement moral, et que Jasnah, par conséquent, était dans son droit en détruisant le mal. La fin devait être mise en balance avec les méthodes. Si le but était louable, alors les étapes entreprises l'étaient aussi, même si certaines d'entre elles étaient, en elles-mêmes, répréhensibles. La philosophie de l'aspiration. Celle-là, plus que toute autre, qualifiait d'éthique les décisions de Jasnah. Shallan arracha la page de sa planche à dessin et la jeta près des autres éparpillés sur son lit. Ses doigts se remirent en mouvement, serrant le crayon de charbon, entamant un nouveau dessin sur la page vierge fixée en place sur la table, incapable de s'échapper. Son vol la rongeait autant que ses meurtres. L'ironie voulait que Jasnah, en exigeant que Shallan étudie la philosophie moraliste, l'oblige à réfléchir à ses propres terribles actions. Elle était venue à Carbrant pour voler le Fabrial, puis s'en servir afin de sauver ses frères et leur maison de leurs dettes écrasantes et de la destruction. Mais en fin de compte, ce n'était pas pour cette raison que Shallan avait volé le Spiricant. Elle l'avait pris parce qu'elle était en colère contre Jasnah. Si les intentions importaient plus que les actes, alors elle devait se condamner elle-même. Peut-être la philosophie de l'aspiration, qui posait les objectifs comme plus importants que les mesures entreprises pour les atteindre, justifierait-elle ce qu'elle avait fait, mais c'était la philosophie qu'elle trouvait la plus répréhensible. Shallan restait assise à dessiner et à condamner Jasnah. Mais c'était Shallan qui avait trahi une femme qui lui faisait confiance et l'avait recueillie. À présent, elle projetait de commettre une hérésie en utilisant le Spiricant sans être une ardente. Le Spiricant lui-même reposait dans la partie cachée de la malle de Jasnah. 3 jours s'étaient écoulés et Jasnah n'avait toujours pas évoqué sa disparition. Elle portait chaque jour le Spiricant factice. Elle ne disait rien, n'agissait pas différemment. Peut-être n'avait-elle pas encore essayé de spiricanter. Puisse le Tout-Puissant faire qu'elle ne se mette pas en danger en croyant pouvoir utiliser le Fabrial pour tuer des agresseurs. Bien entendu, Shallan devait aussi réfléchir à un autre aspect de cette nuit-là. Elle portait une arme cachée qu'elle n'avait pas utilisée. Elle se sentait idiote de ne pas avoir pensé à la sortir. Mais elle n'avait pas l'habitude de... Shallan s'immobilisa, comprenant pour la première fois ce qu'elle venait de dessiner. Pas une autre représentation de la ruelle, mais une pièce somptueuse aux épais tapis décorés et aux murs ornés d'épées. Une longue table à manger où reposait un repas à moitié terminé. Et un homme mort aux habits somptueux, étendu face contre terre, avec le sang qui s'accumulait autour de lui. Elle sursauta, rejeta son charbon, puis froissa le papier. Tremblante, elle alla s'asseoir sur le lit parmi les dessins. Laissant tomber la feuille froissée, elle leva les doigts vers son front et y sentit la sueur froide. Quelque chose n'allait pas chez elle, dans ses dessins. Il fallait qu'elle s'en aille, qu'elle échappe à la mort, à la philosophie et aux questions. Elle se leva et se dirigea précipitamment vers la pièce principale des appartements de Jasnah. La princesse elle-même s'était absentée pour des recherches comme toujours. Elle n'avait pas exigé que Shallan l'accompagne au voile aujourd'hui. Était-ce parce qu'elle comprenait que sa pupille avait besoin de temps pour réfléchir seule? Ou parce qu'elle soupçonnait Shallan d'avoir volé le Spiricant et ne lui faisait plus confiance? Shallan traversa la pièce à la hâte. Elle n'était équipée que des meubles les plus basiques fournis par le roi Taravangian. Shallan ouvrit la porte du couloir et faillit bousculer une maîtresse servante qui s'apprêtait à frapper. La femme sursauta et Shallan poussa un cri.
« Clarissime !» dit la femme en s'inclinant aussitôt. « Toutes mes excuses, mais l'un de vos éco-calames clignote !»
La femme lui tendit le calame auquel était fixé un petit rubis clignotant. Shallan inspira et expira pour calmer son cœur.
« Merci, » dit-elle.
Tout comme Jasnah, elle laissait ses éco-calames aux soins des serviteurs parce qu'elle se trouvait souvent loin de ses appartements et risquait de manquer les tentatives faites pour la joindre. Toujours troublée, elle fut tentée de l'ignorer et de poursuivre son chemin. Mais elle avait besoin de parler à ses frères, Nan Balat en particulier, qui était absent les dernières fois qu'elle avait contacté sa famille. Elle prit l'éco-calame et ferma la porte. Elle n'osait pas regagner ses appartements où tous ses croquis l'accusaient. Mais il y avait un bureau et une planche à éco-calame dans la pièce principale. Elle s'y assit et fit tourner le rubis. « Shallan, écrivit le calame, es-tu bien installé ?» Il s'agissait d'un code destiné à lui apprendre que c'était bien Nan Balat, ou du moins sa fiancée, qui se trouvait de l'autre côté. « Mon dos me fait mal et mon poignet me démange, » répondit-elle, donnant l'autre moitié du code. « Je suis désolée d'avoir manqué tes autres communications, » lui dit Nan Balat. « J'ai dû assister à un festin au nom de papa. Comme j'étais avec Sur Kamar, je ne pouvais pas vraiment le manquer, bien que le trajet ait pris une journée dans chaque sens. « Pas de problème, » répondit Shallan. Elle prit une profonde inspiration.
J'ai l'objet. Elle fit tourner la gemme. Le calame resta un long moment muet. Enfin, une main pressée écrivit. Les héros soient loués. Ô Shallan, tu as réussi. Dans ce cas, tu es sur le chemin du retour? Comment peux-tu utiliser l'éco-calame sur l'océan? Est-ce que tu te trouves au port? Je ne suis pas parti, écrivit Shallan. Quoi? Pourquoi? Parce que ce serait trop suspect, écrivit-elle. Réfléchis un instant, Nan Balat. Si Jasna essaie l'objet et qu'elle le trouve cassé, elle ne décidera peut-être pas tout de suite qu'on l'a dupée. Ce qui ne sera pas le cas si je suis rentrée soudainement chez moi d'une manière suspecte. Je dois attendre qu'elle s'en aperçoive, puis voir ce qu'elle fait ensuite. Si elle comprend que son fabrial a été remplacé par un faux, je pourrai détourner ses soupçons vers d'autres coupables. Elle se méfie déjà de l'ardence. Si d'un autre côté, elle suppose que son fabrial a été cassé d'une manière ou d'une autre, je saurai que nous sommes libres. Elle fit tourner la gemme et remit les coca-lames en place. La question qu'elle attendait vint ensuite. Et si elle suppose immédiatement que c'est toi? Shallan, et si tu ne réussis pas à détourner ses soupçons? Et si elle ordonne qu'on fouille tes appartements et qu'on y trouve le compartiment caché? Elle reprit le calame. Dans ce cas, il vaut tout de même mieux que je sois ici, écrivit-elle. Balat, j'ai appris beaucoup de choses sur Jasna Colin. Elle est incroyablement déterminée. Elle ne me laissera pas lui échapper si elle pense que je l'ai volée. Elle me pourchassera et utilisera toutes ses ressources pour exercer un châtiment. En quelques jours à peine, nous aurions notre roi et nos hauts princes sur nos terres pour exiger que nous rendions le fabrial. Père des tempêtes, je parie que Jasna a des contacts à Jacquevet qu'elle pourrait atteindre avant mon retour. Je me retrouverai en détention à peine arrivée à terre. Notre seul espoir consiste à la mener sur une fausse piste. Si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux que je sois ici et que je subisse rapidement sa colère. Elle reprendrait probablement le spiricante et me chasserait de sa vue. Mais si nous lui donnons du mal en l'obligeant à me pourchasser, elle peut se montrer impitoyable, Balat. Ça ne se passerait pas bien pour nous. La réponse fut longue à venir. « Quand es-tu devenue si douée pour la logique, petite sœur ? » écrivit-il enfin. « Je vois que tu y as réfléchi. Mieux que moi, du moins. Mais Shallan, le temps commence à nous manquer. » « Je sais, » répondit-elle. « Tu m'as dit pouvoir continuer à tout faire fonctionner pendant quelques mois encore. Je te demande de le faire. Donne-moi 2 ou 3 semaines, au moins, le temps de voir ce que fait Jasna. Et puis, tant que je suis ici, je peux me renseigner sur le fonctionnement de l'objet. Je n'ai pas encore trouvé de livre qui me donne de pistes. Mais il y en a tellement ici que je n'ai peut-être simplement pas encore trouvé le bon. « Très bien, » écrivit-il. « Quelques semaines. » « Sois prudente, petite sœur. Les hommes qui ont donné le fabrial à papa sont revenus nous rendre visite. Ils ont demandé à te voir. Ils m'inquiètent. Encore plus que l'état de nos finances. Ils me dérangent profondément. Adieu. » « Adieu, » répondit-elle. Jusqu'à présent, il n'y avait eu aucune forme de réaction de la part de la princesse. Elle n'avait même pas parlé du spiricante, ce qui rendait Shallan nerveuse. Elle aurait préféré que Jasna dise quelque chose. Cette attente était insoutenable. Chaque jour, alors qu'elle était assise en compagnie de Jasna, son estomac se nouait d'anxiété jusqu'à lui donner la nausée. Au moins, compte tenu des morts quelques jours plus tôt, Shallan avait-elle une bonne excuse pour sembler perturbée. Une logique froide et calme. Jasna elle-même en serait fière. On frappa un coup à la porte, et Shallan rassembla précipitamment la conversation qu'elle venait d'avoir avec Nan Balat et brûla l'ensemble dans le foyer. Une servante du palais entra l'instant d'après, portant un panier au creux de son bras. Elle sourit à Shallan. Il était l'heure du ménage quotidien. Shallan éprouva un étrange moment de panique en voyant cette femme. Ce n'était pas l'une des servantes qu'elle reconnaissait. Et si Jasna l'avait envoyée, elle ou quelqu'un d'autre, fouiller la chambre de Shallan? L'avait-elle déjà fait? Shallan la gratifia d'un hochement de tête, puis, pour apaiser ses inquiétudes, elle se dirigea vers sa chambre et ferma la porte. Elle se précipita vers la malle et vérifia le compartiment secret. Le fabrial s'y trouvait bien. Elle le souleva pour l'inspecter. Si Jasna avait d'une manière ou d'une autre procédé à l'échange inverse, s'en apercevrait-elle ? « Ne sois pas idiote », se dit-elle. Jasna est ingénieuse, mais pas à ce point. Malgré tout, Shallan fourra le spiricante dans sa sage bourse. L'enveloppe de tissu le contenait à peine. Elle se sentirait plus en sécurité en sachant qu'elle le portait sur elle, tandis que la servante nettoyait sa chambre. Et puis la sage bourse serait peut-être une meilleure cachette que sa malle. Selon la tradition, la sage bourse d'une femme était l'endroit où elle gardait des objets intimes ou extrêmement précieux. La fouiller revenait à dénuder sa propriétaire. Compte tenu de son rang, l'un comme l'autre était quasiment impensable, à moins qu'elle ne soit ouvertement impliquée dans un crime. Jasna pourrait sans doute l'obtenir de force. Mais si Jasna le faisait, elle pouvait également ordonner une fouille de la chambre de Shallan, et sa malle serait examinée de très près. En réalité, si Jasna choisissait de la soupçonner, Shallan ne pouvait quasiment rien faire pour cacher le fabrial. La sage bourse était donc une cachette aussi bonne qu'une autre. Elle rassembla ses dessins et les plaça à l'envers sur le bureau, s'efforçant de ne pas les regarder. Elle ne voulait pas que la servante les voie. Enfin, elle sortit, emportant sa pochette à dessin. Elle éprouvait le besoin de s'échapper quelque temps, de dessiner autre chose que la mort et le meurtre. La conversation avec Nan Balat n'avait réussi qu'à la perturber encore davantage. « Clarissime ?» demanda la servante. Shallan se figea. Mais la servante lui tendit un panier. « Quelqu'un a laissé ça pour vous auprès des maîtres serviteurs ?» Elle l'accepta avec hésitation et regarda à l'intérieur. Du pain et de la confiture. Un mot accroché à l'un des pots disait « Confiture d'azurelle, si elle vous plaît, ça signifie que vous êtes mystérieuse, réservée et réfléchie. » Il était signé de Kabzal. Shallan plaça l'anse du panier au creux de son sage bras. Kabzal. Peut-être ferait-elle mieux d'aller le trouver. Elle se sentait toujours mieux après une conversation avec lui. Mais non, elle allait partir. Elle ne pouvait pas le laisser s'attacher, ni s'attacher elle-même. Elle redoutait la direction que prenait cette relation. Elle se dirigea donc plutôt vers la grotte principale, puis la sortie du conclave. Elle sortit à la lumière du soleil et prit une profonde inspiration, levant les yeux vers le ciel, tandis que les serviteurs et domestiques s'écartaient autour d'elle, entraient dans le conclave ou en ressortaient en masse. Elle tenait sa pochette à dessin près d'elle et sentait le vent frais sur ses joues et la chaleur contrastée du soleil sur son front et ses cheveux. En fin de compte, le plus dérangeant était que Jasna ait eu raison. Le monde de Shallan, fait de réponses simples, était jusque-là un endroit idiot et puéril. Elle s'était accrochée à l'espoir de trouver la vérité et de s'en servir pour expliquer, voire justifier, ce qu'elle avait fait à Jakeved. Mais s'il existait quelque chose qu'on puisse appeler la vérité, elle était bien plus trouble et complexe qu'elle ne l'avait supposé. Certains problèmes ne semblaient pas avoir de bonnes réponses, simplement beaucoup de réponses fausses. Elle pouvait choisir la source de sa culpabilité, mais pas décider d'en être totalement débarrassée. 2 heures et une vingtaine de croquis rapides plus tard, Shallan se sentait bien plus détendue. Elle était assise dans les jardins du palais, carnet de croquis sur les genoux, occupée à dessiner des escargots. Les jardins n'étaient pas aussi étendus que ceux de son père, mais ils étaient bien plus variés et merveilleusement isolés par-dessus le marché. Comme de nombreux jardins modernes, ils étaient conçus avec des murs de schiste écorce cultivés. Ceux de ce jardin-ci formaient un labyrinthe de pierres vivantes. Ils étaient assez bas pour que Shallan, lorsqu'elle se tenait debout, puisse voir jusqu'à l'entrée. Mais si elle s'asseyait sur l'un des nombreux bancs, elle pouvait se sentir seule et protégée des regards. Elle avait demandé à un gardien le nom de la variété de schiste écorce la plus volumineuse. Il l'avait appelée tranche-pierre. Un nom approprié dans la mesure où elle poussait en petites sections rondes qui s'empilaient les unes au-dessus des autres, comme des assiettes dans un placard. Vue de côté, elle ressemblait à de la pierre usée, dévoilant des centaines de fines strates. Des vrilles minuscules poussaient de ses pores, s'agitant au vent. Leur enveloppe, semblable à la pierre, possédait une teinte bleuâtre, mais les vrilles étaient jaunâtres.
Son sujet actuel était un escargot à la coquille basse et horizontale, parcouru de petites stries. Lorsqu'on le tapotait, il s'aplatissait dans une crevasse du schiste écorce et semblait devenir partie intégrante de la tranche-pierre. Il s'y camouflait parfaitement. Quand elle le laissait bouger, il mordillait le schiste écorce sans le manger. « Il nettoie le schiste écorce », comprit-elle tout en poursuivant son croquis. « Il mange le lichen et la moisissure. » En effet, une piste plus propre s'étirait derrière lui. Des carrés d'une sorte différente de schiste écorce, dotés de saillies s'élevant dans les airs depuis un nœud central, poussaient aux côtés de la tranche-pierre. En y regardant de plus près, elle remarqua de petits crémillons, fins et dotés de pattes nombreuses, en train de ramper tout du long et de le manger. Eux aussi étaient-ils en train de le nettoyer ? Curieux, se dit-elle tout en entamant un croquis des crémillons miniatures. Ils possédaient des coquilles aux nuances dégradées, comme les doigts du schiste écorce, tandis que la coquille de l'escargot était la réplique quasi exacte des couleurs jaune et bleue de la tranche-pierre. Comme si le Tout-Puissant les avait conçus par paire, la plante fournissant un abri à l'animal, l'animal nettoyant la plante. Quelques sprènes de vie, minuscules taches vertes luisantes, flottaient autour des monticules de schiste écorce. Certains dansaient parmi les crevasses de l'écorce, d'autres dans les airs comme des particules de poussière qui s'élevaient en zigzagant pour retomber ensuite. Elle se servait d'un crayon de charbon à la pointe plus fine pour griffonner quelques observations sur la relation entre animaux et plantes. Elle ne connaissait aucun livre parlant de relations comme celle-ci. Les érudits semblaient préférer étudier les gros animaux dynamiques comme les magnécoques ou les pâles échines. Mais Chalanne jugeait cette découverte d'une extraordinaire beauté. Les escargots et les plantes peuvent s'entraider, songea-t-elle. Mais moi, je trahis Jasna. Elle lança un coup d'œil furtif à sa sage main et à la bourse cachée à l'intérieur. Elle se sentait plus en sécurité avec le spiricante à proximité. Elle n'avait pas encore osé essayer de s'en servir. Ce vol la rendait trop nerveuse, et elle redoutait d'utiliser l'objet près de Jasna. À présent, toutefois, elle se trouvait dans un recoin au plus profond du labyrinthe, avec une seule entrée incurvée menant à l'impasse qu'elle occupait. Elle se leva d'un air désinvolte et regarda autour d'elle. Il n'y avait personne d'autre dans les jardins, et elle était suffisamment loin à l'intérieur pour qu'il faille plusieurs minutes à quiconque pour l'atteindre. Chalanne se rassit, posant carnet et crayon. « Autant voir si je trouve comment m'en servir », se dit-elle. « Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de continuer à fouiller le palané en quête d'une solution. » Tant qu'elle restait debout et regardait autour d'elle de temps à autre, elle pouvait être certaine que personne ne l'approcherait ni ne la verrait par accident. Elle retira l'appareil interdit. Il était lourd et solide dans sa main. Inspirant profondément, elle enroula les chaînes autour de ses doigts et de son poignet, les gemmes reposant contre le dos de sa main. Le métal était froid, les chaînes relâchées. Elle fit jouer sa main pour resserrer le fabrial. Elle s'était attendue à un sentiment de puissance, à des fourmillements sur sa peau, peut-être, ou à une sensation de force et de pouvoir. Mais il ne se produisit rien. Elle tapota les trois gemmes. Elle avait placé sa pierre de fumée au troisième emplacement. Certains autres fabriaux, comme les écocalames, fonctionnaient lorsqu'on tapotait les pierres. Mais c'était idiot, car elle n'avait jamais vu Jasna le faire. Celle-ci se contentait de fermer les yeux et de toucher quelque chose pour le spiricanter. La fumée, le cristal et le feu étaient ce pourquoi ce spiricante-ci était le plus efficace. Elle n'avait vu qu'une seule fois Jasna créer autre chose. Hésitante, Chalanne prit un morceau de schiste écorce brisée à la base de l'une des plantes. Elle la souleva de sa libre main, puis ferma les yeux. « Transforme-toi en fumée !» ordonna-t-elle. Rien ne se produisit. « Transforme-toi en cristal !» ordonna-t-elle à la place. Elle entr'ouvrit un œil. Aucun changement. « Du feu ! Brûle ! Tu es fait de flammes, tu... » Elle marqua un temps d'arrêt en comprenant à quel point c'était stupide. Une main mystérieusement brûlée ? Non, ça ne serait absolument pas suspect. Elle se fixa plutôt sur le cristal. Elle referma les yeux, s'accrochant à l'image mentale d'un morceau de quartz. Elle tenta de pousser le schiste écorce à se transformer par la force de sa volonté. Comme rien ne se produisait, elle cessa simplement d'essayer de se concentrer, imaginant le schiste écorce en train de se transformer. Après quelques minutes d'échec, elle essaya plutôt de faire se transformer la bourse, puis le banc, puis l'un de ses cheveux. Rien ne fonctionna. Shallan s'assura qu'elle était toujours seule, puis se rassit, frustrée. Nan Balat avait demandé à Luesh comment fonctionnaient ses engins, et il avait répondu qu'il était plus facile de le montrer que de l'expliquer. Il avait promis de leur donner des réponses si elle parvenait réellement à voler celui de Jasna. À présent, il était mort. Était-elle condamnée à rapporter celui-ci à sa famille pour qu'elle le remette aussitôt à ces dangereux individus, sans jamais pouvoir l'utiliser pour gagner de l'argent afin de protéger sa maison? Tout ça parce qu'il ne savait pas comment l'activer. Les autres fabriaux qu'elle avait utilisés étaient simples à activer, mais cela était construit par des artifabriens contemporains. Les spiricantes étaient des fabriaux d'une époque ancienne. Ils ne devaient pas employer de méthodes d'activation moderne. Elle regarda fixement les gemmes luisantes suspendues au dos de sa main. Comment découvrirait-elle la méthode pour utiliser un outil vieux de milliers d'années, interdit à tous sauf aux ardents? Elle replaça le spiricante dans sa sage bourse. Visiblement, elle allait devoir continuer à chercher dans le palané. Ou interroger Kabzal. Mais y parviendrait-elle sans éveiller les soupçons? Elle entama son pain tartiné de confiture et se mit à mâchonner tout en réfléchissant distraitement. Si Kabzal n'en savait rien, et qu'elle ne parvenait pas à trouver les réponses avant de quitter Carbrandt, quels étaient les autres choix? Si elle apportait l'artefact au roi Véden, ou peut-être aux Ardents, serait-il en mesure de protéger sa famille en échange du cadeau? Après tout, on ne pouvait pas vraiment lui reprocher de l'avoir volé à une hérétique, et il serait en sécurité tant que Jasna ignorerait qui détenait le spiricante. Curieusement, cette idée la fit se sentir encore plus mal. Voler le spiricante à sa famille était une chose, mais le remettre aux Ardents même que Jasna dédaignait? Ça semblait une trahison plus grande encore. Encore une décision difficile. Eh bien dans ce cas, se dit-elle, c'est une bonne chose que Jasna soit tellement déterminée à m'apprendre à y faire face. Le temps que tout ça soit terminé, je devrais être une experte.